Merci Seigneur de nous guérir de nos aveuglements et d'enlever les voiles sur notre esprit, sur nos cœurs, qui nous empêchent de scruter au plus profond qui tu es. Merci Seigneur, enlève les voiles. Enlève les voiles. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous propose la lecture de Jérémie 33. Ce matin, c'est ce que j'ai reçu il y a une douzaine de jours à peu près. C'est un texte qui souvent nous a rejoints pour la région. Et puis de nouveau, c'est révélé à moi il y a une douzaine de jours. Et j'aimerais partager quelques pensées sur ce texte. Voilà, Jérémie 33, on va lire juste les 13 premiers versets. On va lire tout le chapitre, mais les 13 premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville, sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattues par les terrasses et par l'épée. Quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'elles seront remplies de cadavres des hommes, que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquelles je cacherai ma face à cette ville, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Ainsi parle l'Éternel, on entendra encore dans ce lieu dont vous dites il est désert. Il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants et de bêtes, les cris de réjouissance, les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. La voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, il y aura encore, dans ce lieu qui est désert, sans hommes ni bêtes, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin, et aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Voilà, j'étais réjoui il y a une douzaine de jours, lors de ma méditation personnelle, d'être réveillé par ce texte. Et le Seigneur me parlait à travers ce passage de Jérémie 33. J'étais dans la joie, hein, c'est toujours une joie quand le Seigneur me parle. et me communique une parole fraîche. Chers amis, est-ce qu'on s'attend à recevoir du Seigneur toujours une parole fraîche? Restons toujours dans une foi ferme, même quand on a l'impression de ne pas recevoir. Quand on a l'impression de galérer dans la prière, dans la lecture de la Bible, j'ai des périodes de galère. Mais restons dans la foi. Attendons-nous toujours à recevoir une parole fraîche du Seigneur. Le Seigneur te fait cette promesse ce matin. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Prenons cette promesse déjà, tout de suite, dans ce texte. Jamais on s'approche du Seigneur en vain. Si on pense qu'on s'approche du Seigneur en vain, ce n'est pas la peine de faire un jeûne et prière. Mais si on s'attend à ce qu'il nous parle, nous communique une direction, une instruction, une parole fraîche, ça change tout. Rappelons-nous que le Seigneur a dit, il nous sera fait selon notre foi. D'accord? Alors déjà, première promesse hein, dans ce texte, invoque-moi, je te répondrai. Rappelez-vous un certain message que j'ai donné sur la notion d'attente, l'importance d'être dans l'attente, d'être un peuple qui s'attend à recevoir de Dieu des révélations de sa part, des projets qu'il a conçus et qu'il entend bien exécuter. Acceptons quelquefois qu'il y ait un décalage entre le temps où on attend et le temps où on reçoit la parole. Par exemple, j'ai pris 24 heures il n'y a pas longtemps d'isolement. Je n'ai pas beaucoup reçu dans ces 24 heures. J'ai reçu ce texte 3 jours après. Bon, il y a quelquefois un décalage. Acceptons de nous attendre à Dieu pour recevoir et donnons ce que nous recevons. Acceptons d'être mis en situation pour apporter une parole, de témoigner. Par exemple, dans un groupe de maison, comme on va le faire dans peu de temps. Vous savez, mon idée, c'est que dans le groupe de maison, j'encourage chacun, on le fera chez Jacques et Christine aussi, chacun partager de temps en temps un apéro de 5 minutes. 5 minutes, communiquer une parole reçue. Une parole qui nous a fait du bien, mais c'est important. C'est pas grave. Seigneur confirme ce que je suis en train de dire. Voilà. Voilà. De partager sur un lieu de travail, bien entendu. De partager dans l'église. Dans les opportunités qui nous sont données. Un culte témoignage, une préparation de louange, voilà. Et dans notre faiblesse, dans notre pauvreté, on sera étonné de voir la fidélité de Dieu pour nous donner la nourriture et la grâce de la communiquer. Est-ce qu'on a envie de vivre cela, hein ? C'est comme ça qu'on va grandir. Je vous rends ce témoignage personnel que chaque fois que j'ai un message à donner, c'est un combat. Après 20 ans, 30 ans, chaque fois. Là, je savais de quoi je devais parler, mais j'étais pendant 1h30, 2h bloqué, quand j'ai commencé. Bloqué. Puis d'un seul coup, le Seigneur m'a dit, allez, vas-y, commence à écrire, enfin plus ou moins, à taper plutôt sur l'ordinateur, parce que bon, j'ai un problème avec ma patte. Et puis, voilà, j'ai obéi au Seigneur, allez, je commence à taper, et puis, hop, le texte qui s'éclaire, les pensées qui viennent les unes après les autres. Il faut avancer. On ne va pas grandir si on reste à rien faire, vous êtes d'accord hein? Ouais, voilà, c'est vrai à tous les niveaux. Alors qu'est-ce que Dieu m'a dit à travers ces lignes de Jérémie 33, en plus de cette promesse déjà, invoque-moi, je te répondrai. Qu'est-ce qui m'a mis en joie? C'est la volonté, ce constat de la volonté constante de Dieu de restaurer, de guérir, de reconstruire ce qui est en ruine. Toujours. Dieu cherche toujours à guérir, restaurer, reconstruire ce qui est en ruine. Peut-être nous, on se dit, ce qui est en ruine, c'est fini, Dieu jamais. Dieu a vu les ruines de cette région, de terre où rien ne pousse ou de terre de malheur, et il a envie de reconstruire toujours, toujours sur ces ruines. Et il nous le dit. Là, alors que son peuple traverse une saison de détresse, de jugement pour ses nombreux péchés, alors que son serviteur le plus fidèle est enfermé en prison, il parle d'ouvrir une source abondante de paix, de fidélité, de ramener des captifs, de les rétablir comme autrefois. Il parle de pardon, de joie, de bonheur, de louange, de gloire. Est-ce bien en ce Dieu avec cette volonté que je crois? Ou est-ce que les temps d'obscurité, peut-être, ont émoussé ma foi et ont eu raison de mon espérance? Parce qu'il y a des temps d'obscurité que nous traversons tous. Je suis interpellé par le nombre de gens qui sont animés d'un sentiment d'abandon, d'un esprit d'orphelin. Je ne dis pas que ça me touche quelquefois moi aussi. Consécutif à des événements personnels, voire des événements collectifs. Dans ce texte, le mot guérison, j'ai regardé dans ma Bible online, ça parle de la notion d'être guéri de détresse personnelle, mais aussi de maux nationaux. Et ça, Anne Griffy nous en a parlé, vous vous souvenez. Soyons capables d'amener à Dieu ces événements douloureux qui ont jalonné nos parcours personnels. Soyons aussi capables en Église, avec d'autres chrétiens, d'apporter des événements douloureux qui ont jalonné l'histoire de notre région. C'est toujours un souhait que j'ai depuis l'avenue d'Anne Griffy d'arriver un jour à prier avec d'autres chrétiens par rapport à ces événements douloureux de la Grande Guerre 14-18, de ces exploitations minières aussi, ces souffrances à cause de cela. C'est une remarque que le Seigneur m'a donnée. Il m'a dit une autre remarque aussi à ce sujet. Il m'a dit, faisons attention, comment nous nous entourons. Nous devons fréquenter en priorité des gens positifs. Il y en a parmi les non-croyants. Les gens continuellement négatifs minent notre foi. Et il y en a aussi parmi les croyants. Ouais. Je vous donne un exemple dans mon travail. On a traversé une période difficile, avec vraiment... période difficile, moi-même, vous savez tout ce que j'ai souffert à mon travail. On vient de changer de direction il y a un an. Nouveau directeur. Nouvelle directrice de site. Alors, ça ne peut pas changer en un jour. Et après quelques mois, les gens critiquent déjà. Des gens qui n'ont même pas le temps de procéder au changement. Ils disent, ça recommence comme avant, c'est la même chose. Voilà. Il y a un moment, stop. On a envie de dire, stop. Laissons ces gens qui viennent de prendre le temps de... Vous comprenez? Et à un moment, le Saint-Esprit nous dit, mais attention, si tu fréquentes tout le temps des gens qui sont continuellement négatifs, ça va miner ta foi. Donc attention comment nous nous entourons. En temps de crise, et on entend souvent ce mot, crise, soyons de ceux qui communiquent l'image d'un Dieu qui redonne l'espérance, qui restaure et qui reconstruit. Selon la promesse d'Ésaïe 61. Il y a beaucoup de désespérance autour de nous. J'étais frappé d'entendre un chiffre cette semaine, dit dans les médias, chez les jeunes, qui ont peur de l'avenir. Un jeune sur trois va à l'école la peur au ventre. Un jeune sur trois va à l'école la peur au ventre. Ça parle, hein ? Ça parle. Je vous dis une autre parole que j'ai reçue il y a une semaine, Daniel 11:30. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. et les plus sages d'entre eux enseigneront la multitude. Ceux qui se renferment, ce sont ceux qui connaîtront Dieu profondément. Et connaître Dieu profondément, c'est savoir que c'est un Dieu qui a toujours envie de restaurer, de guérir, de reconstruire. Ça, c'est ce Dieu que nous avons. Je vais vous lire un autre texte sur lequel je suis tombé sur Internet, de Francis Frangipane, un auteur que j'aime beaucoup, un auteur chrétien que j'aime beaucoup, et qui s'intitule ce texte « Attendez-vous à la gloire de Dieu ». Attendez-vous à la gloire de Dieu. Et voici ce qu'il dit, parce que ça touche un petit peu à des choses que je viens de dire maintenant. Ne vous faites donc pas l'idée que Dieu se cache de vous de façon permanente, bien qu'au travers des épreuves, il puisse nous sembler que ce soit le cas. Il est en train de nous enseigner à voir dans les ténèbres et à écouter dans le silence. Il se fait connaître à notre homme intérieur pour que, malgré nos circonstances, nous puissions continuellement être conduits par son esprit. Et le résultat de ce travail spirituel intérieur est une conviction grandissante que rien n'est impossible à Dieu. Les temps d'obscurité, et on en traverse tous, bien qu'ils soient perçus comme négatifs, nous poussent en fait à chercher Dieu plus ardemment et nous apprennent à révérer davantage la lumière divine. Ne confondez jamais une obscurité temporaire avec une cécité permanente, car la façon dont Dieu nous forme aujourd'hui est le processus même qui nous prépare à voir sa gloire. Si nous ôtons le voile du péché, de la honte, de l'égocentrisme, et si nous persistons à chercher Dieu en restant focalisés sur sa parole et son esprit, nous devrions nous attendre à voir la gloire du Seigneur. Une telle perception est biblique et devrait être recherchée. Soyez assurés que de voir la gloire de Dieu n'est pas simplement scripturaire. C'est aussi courant, particulièrement dans les moments critiques comme ceux que nous vivons aujourd'hui. Le fait est qu'une multitude d'Israélites ont vu la gloire de Dieu sur le mont Sinaï. Des jeunes hommes, des femmes âgées, des petits-enfants, des gens de tous âges et de toutes conditions physiques. Tous virent la gloire de Dieu sur le mont Sinaï. La voix de Dieu s'adresse aussi à eux. Cependant, cette gloire visible ne s'est pas arrêtée sur le Sinaï. Les Israélites suivaient une nuée de gloire dans la journée, une colonne de feu la nuit. Cela n'arriva pas une ou deux fois, mais cela se produisit chaque jour pendant 40 ans. À combien plus forte raison le Seigneur de gloire se manifestera-t-il lui-même à nous dans ces derniers temps ? Si vous faites partie de ceux qui poursuivent Dieu, hormis quelques périodes d'obscurité pendant lesquelles l'Esprit affûte vos sens spirituels, vous devriez vous attendre à voir la gloire de Dieu et être dans l'expectative que désormais chaque jour, quand vous vous arrêtez pour prier, marcher ou rêver, l'Esprit de Dieu va venir à vous d'une façon merveilleuse qui va changer votre vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors voilà ce qui a fait ma joie il y a 12 jours. C'est la vision d'un Dieu qui a toujours envie de restaurer, de guérir, de reconstruire. Et ceci, malgré les apparences. Jérémie en prison, le désert partout, le désert spirituel. Invitation pour nous à ne pas rester sur des apparences, mais à discerner les bourgeons, je l'ai souvent dit. Quand des gens... Moi, je peux vous dire, chaque fois que j'ai une déception spirituelle, le lendemain, j'avais un témoignage, quelqu'un, une action de grâce, quelqu'un m'a dit merci. Merci pour le témoignage que tu es, etc. Chaque fois, je suis stupéfait. Ouais. Comme pour dire, Seigneur, Jean-Luc, te décourage pas, voilà. Si tu as cette bonne odeur du Christ, ça va porter du fruit. Alors dans ce passage, ce qui m'a encore mis en joie, c'est la deuxième partie, c'est de découvrir les domaines où Dieu veut entreprendre cette restauration. Et Dieu m'a montré trois domaines. Le premier domaine, on le voit, c'est la restauration de la louange, de l'adoration, du premier amour, l'amour de la fiancée, des cœurs reconnaissants, voyant la miséricorde de Dieu. On entendra les cris de réjouissance, d'allégresse, les chants du fiancé, de la fiancée, la voix de ceux qui disent louer l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours, la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce, car je ramènerai les captifs. Dieu veut restaurer la louange et l'adoration. Ce n'est pas une nouveauté, hein, on l'a souvent entendu. Dieu veut préparer l'Église à être l'épouse. Il veut lui redonner son premier amour. Alors je vous redis à ce propos ce que j'avais reçu dans une autre journée à part que j'ai pris 24 heures à Bouvines en janvier cette année. Dieu va se servir de personnes très éloignées de lui. Style le brigand sur la croix ou Marie-Madeleine la prostituée. Et qui vont toucher la miséricorde de Dieu et qui deviendront de vrais adorateurs qui vont nous entraîner. Nous les vieux chrétiens, à devenir aussi ces adorateurs. Dieu va ramener des captifs, c'est dit dans ce passage. Soyons prêts dans l'Église, en Église, à accueillir ces captifs. Au moment peut-être où ils ne sont pas encore transformés. Au moment peut-être où ils sentent mauvais. Il faut nous y préparer. Dieu m'a montré qu'il faut nous y préparer. Et je rappelle une parole d'Anne Griffy pour Wavrin. Elle a dit ceci. Vous avez un appel pour être refuge pour les gens blessés. Ils doivent savoir qu'ils peuvent venir ici en toute sécurité. Vos murs ne doivent pas murmurer les secrets des gens très blessés. Les secrets des gens très blessés, il faut les garder. Ne pas toucher la plaie, sinon ça va hurler. Ne pas mettre un vêtement religieux pour dire « demande pardon », mais écoutez la détresse et centrez sur Christ. Comptez sur son sang. Vous allez travailler avec des gens très blessés. Tous ne seront peut-être pas sauvés, mais le Seigneur va vous donner des clés pour les cœurs. Vous êtes les canaux pour guérir des cœurs profondément blessés, endurcis, face au mur, coincés. Alors c'est important qu'on réentende ces recommandations. Parce que si notre amour, nous devons de plus en plus amoureux pour le Seigneur, il va amener des gens très loin, dans sa compassion et dans sa grâce. C'est connu ça. Donc si dans le programme de Dieu pour cette région, il est dit qu'on entendra ces chants de louange et d'adoration, ces actions de grâce, on doit s'attendre à ce que des cœurs très blessés soient au bénéfice de nos moments d'adoration. D'où l'importance de cultes ouverts. L'été, peut-être pensons ouvrir les portes. Bon, l'hiver, on ne peut pas les ouvrir, mais ayons les cœurs ouverts, hein. Ayant les cœurs ouverts. Je me rappelle toujours de cet événement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, où on était dans un moment d'adoration à 5 ou 6 formidables, dans le temple à Élie, et quelqu'un avait amené sa belle-fille incroyante, elle s'est convertie 2 jours après, touchée par le Seigneur dans ce moment d'adoration. Et elle continue à être fidèle dans une église, oui. Deuxième domaine où Dieu veut reconstruire, restaurer, guérir, c'est dans le domaine de la restauration de bergers, d'hommes et de femmes, selon le cœur de Dieu. Il y aura, dans ce lieu qui est désert, sans hommes ni bêtes, dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux. Les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte. Dit l'Éternel. Dieu veut restaurer des bergers. Ça, je le prends comme une promesse. Des hommes, des femmes, selon son cœur, désintéressés, capables d'aimer les brebis, capables de prendre soin d'eux, capables de les amener au souverain berger. C'est ça, en fait. celui qui les compte. C'est pas à nous de compter, c'est pas des bergers humains de compter les brebis, c'est au souverain berger. Ça, mes chers amis, c'est une promesse qu'il nous faut saisir. Il nous faut saisir cette promesse alors qu'on est tenté de penser que la vocation pastorale se perd. Un autre chiffre, un tiers des pasteurs n'auront pas au bout de leur mandat. C'est un chiffre que j'ai lu quelque part. Et dans certains endroits, c'est plus d'un tiers. Hein. Vous pouvez peut-être être tenté de penser qu'il n'y aura personne pour me remplacer dans 3 ans. Allons-nous sombrer dans le pessimisme? Ou allons-nous saisir cette promesse? Il y aura des bergers, pas un, mais plusieurs. Il y aura des demeures, des lieux de restauration, des groupes de maisons, je ne sais pas. Il y aura, nous devons nous saisir de cette promesse. Des bergers, je crois qu'il faut aussi, des bergers, pas des hommes à tout faire, pas des hommes sur qui on met toutes les casquettes, non, des bergers simplement, d'accord, vous comprenez? Et c'est ça quelquefois qui fait fuir la vocation, c'est qu'on veut mettre toutes les casquettes et toutes les fonctions sur un pasteur, d'accord? Je vois un signe de l'accomplissement tout de suite quand j'ai reçu ça dans la prière. Je voyais un signe tout de suite de l'accomplissement de cette promesse dans un événement tout proche. Le 11 novembre, pendant 4 jours, au Château Blanc, à l'initiative d'Horizon, de Jean, aidé un peu d'Embrasse nos cœurs, mais surtout Horizon, il y aura un séminaire pour pasteurs, anciens, bergers, bergères, responsables dans l'Église du Christ, sur le thème de la croissance dans l'amour du Père. Et quelques lignes de cette retraite. Grandir dans l'amour du Père, marcher dans les liberté du Saint-Esprit. Aider ceux que Dieu nous a confiés à découvrir cet amour du Père. Déposer le manteau de l'esprit d'orphelin pour revêtir celui du Fils. Marcher en Fils, héritier de Dieu. Et je suis sûr que ce séminaire en appellera un autre pour des futurs responsables. Je vois un signe de ce que Dieu va lever des bergers. On doit appeler cela. Troisième domaine de restauration, pour terminer, le changement d'atmosphère de nos villes. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire. Il s'agit bien sûr de Jérusalem. Hein. C'est d'abord de Jérusalem dont il est question. Mais il faut aussi voir dans ce passage une intention de Dieu de changer l'atmosphère de nos villes. Et j'étais très encouragé par 2 paroles de chrétiens il y a quelque temps qui ne font pas partie de notre Église et qui faisaient remarquer que se dégageait une bonne atmosphère à Wavrin. Et l'un disait notamment que ça avait changé, évolué depuis quelques années. Alors on pourrait dire beaucoup de choses hein, au sujet de ce qui change l'atmosphère d'une ville. On pourrait citer la prière, bien sûr, la priorité à l'être sur le faire, car nos vies doivent dégager la bonne odeur du Christ. Ça on le sait, mais je voudrais juste insister sur un point qui m'interpelle. Et c'est un souci d'équilibre que j'ai, hein, que je vous partage. Ne pas trop focaliser sur les activités de l'Église au point d'oublier le témoignage dans la société. Le rayonnement à l'extérieur. Et c'était certainement une erreur chez beaucoup de conducteurs qui ont pu ainsi négliger des appels nécessitant un investissement à l'extérieur. Alors l'écueil inverse est valable aussi. On a les francs-tireurs qui volent tout le temps à l'extérieur, mais qui n'en veulent pas avoir besoin de la couverture spirituelle et de la communion du corps. C'est l'autre écueil. Et oui, il faut trouver l'équilibre entre ces 2 écueils. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile. Quelquefois, on est tenté de focaliser sur les activités de l'Église. On voudrait que tous les gens servent uniquement dans ce qui est organisé dans le programme de l'Église. Après, il y en a d'autres qui veulent aller à l'extérieur, mais ils ne veulent pas la communion. D'accord ? Vous avez remarqué que dans cette église, on a fait le choix de ne pas mettre une quantité de réunions en semaine. Juste deux par mois, plus quelques réunions ponctuelles. Bien sûr, il y a la maison de prière le vendredi pour ceux qui veulent. Ça me paraît le minimum. Et ce minimum, il ne faut pas le négliger. C'est pour ça un peu que si j'avais pensé lancer ces duos de prière pour dynamiser. Mais pourquoi pas un programme chargé ? Pour qu'on ait du temps pour créer du lien avec nos voisins, avec même des gens de l'église aussi. Qu'on ait du temps pour inviter, être invité. Participer à des événements locaux. Je me dis ici, ça serait peut-être bien qu'une fois, on aille à plusieurs, assister à quelque chose au centre culturel du Moulin, à Wavrin. Voilà ce que je voulais vous partager et je vous fais cette conclusion tout au long de cette année. Veillons les uns sur les autres afin de ne pas perdre cette espérance en Dieu dans cette attente de sa restauration dans ces trois domaines. La louange, l'adoration, restauration du premier amour, la restauration de bergers qu'il va lever, le changement d'atmosphère de nos villes. Tout au long de cette année, peut-être dès cette première soirée de jeûne et prière, appelons ces adorateurs en esprit en vérité. Appelons ces captifs qui doivent revenir à la maison. Appelons ces bergers. Appelons ce changement dans cette ville de Wavrin, dans nos propres villes. Peut-être au cours de cette soirée, on pourra déposer des événements, des blessures, selon que l'esprit va conduire, qui ont bouché la source d'eau vive. Et on participera à libérer cette source abondante de paix et de fidélité qui nous est promise. Mais il faudra continuer après cette soirée, et tout au long de l'année, à appeler ces adorateurs, ces captifs, ces bergers, en prenant conscience qu'on est peut-être ce que nous appelons. Adorateurs, sûrement, la plupart. Bergers, peut-être quelques-uns parmi nous. Chez qui il y a une aspiration. Il y a eu peut-être une confirmation par une parole prophétique. Et pour cela, c'est le temps de se mettre en marche. Comme les Israélites qui ont suivi la colonne de nuée, il faut avancer, faire des pas de foi, comme ces pas dont je vous ai parlé tout à l'heure. Commencer à donner l'apéro, commencer à partager la parole reçue. Pour être conduit par l'Esprit, il faut apprendre à marcher dans l'Esprit. Je vous invite à fermer les yeux, on va terminer dans la prière, d'accord ? Peut-être avons-nous, cultivé un esprit négatif ou un esprit incrédule. Eh bien, si on sent cela, on peut demander pardon au Seigneur. Donc, si ça fait écho, bien, dans votre cœur, vous faites cette prière aussi. Seigneur, pardon pour avoir cultivé quelquefois un esprit négatif. Pour avoir cessé de croire en ton œuvre pendant ces temps d'obscurité que j'ai traversé. Pardon peut-être pour mon manque de vigilance par rapport à la façon d'être entouré. Peut-être pas pris conscience de l'influence négative de certains. Seigneur, ce matin, je m'ouvre à cette perspective d'un Dieu qui ne se lasse pas de vouloir guérir, restaurer, reconstruire. et ceci quel que soit l'état des ruines autour de moi. Je veux être dans l'attente des plus beaux cadeaux qui viennent toujours d'en haut. Et parmi ces cadeaux, je veux m'attendre à être au milieu d'un peuple d'adorateurs qui feront jaillir ces chants d'amour et ces cris de reconnaissance. Je veux m'attendre encore à ce que tu lèves des bergers et des bergères dans cette communauté, source de vie, à Wavre, mais aussi dans toute cette région. Et je veux m'attendre à ce que tu continues à changer l'atmosphère de cette ville et de ma propre ville. Oui. Et je veux, Seigneur, montrer mon attente en faisant, en acceptant de faire des pas de foi qui concernent tous ces domaines. Je veux me mettre en marche, comptant sur ta grâce. Amen.